Ce temps de l'Avent est un temps marial, nous le savons, par excellence. Et on comprend tout à fait la présence là du récit de l'Annonciation. Mais on peut se dire, est-ce que ce n'est pas aussi un temps de l'appel? Est-ce que ce n'est pas un Dieu qui appelle à travers ce temps liturgique? Et à travers ce récit de l'Annonciation, est-ce que ce n'est pas l'archétype, le modèle de tous les appels? Les appels, d'abord, on voit l'initiative vient de Dieu. Ce n'est pas le fruit de l'imagination de la Vierge Marie. C'est Dieu qui, par son ange, annonce quelque chose. Et puis, il y a deux petits mots auxquels on ne prête pas tellement attention. Et l'ange entra. On se dit, oui, bon, il entra, voilà, dans la maison, voilà. Bon. Non, mais ça veut dire quelque chose. À mon avis, le plus profond, c'est que Marie était chez elle. Mais pas seulement chez elle, dans sa maison. Mais chez elle, elle habitait son cœur, elle habitait son intériorité, elle était dans une dimension contemplative. Et cela fait appel justement à ce que, quand le Seigneur nous demande quelque chose, c'est d'abord l'invitation à être, pour employer un terme moderne, connecté à soi-même. Si Marie n'était pas chez elle, par exemple, si Marie n'était pas dans cette attitude d'accueil contemplative, eh bien, elle n'aurait pas entendu l'appel de l'ange. Elle n'aurait pas accueilli cet appel. Et ce qui nous empêche d'écouter les appels du Seigneur, parce que les appels du Seigneur, il y en a beaucoup. C'est ce qu'on peut appeler aussi les motions du Saint-Esprit. L'Esprit Saint qui agit en nous, qui nous pousse à aller dans un sens comme dans un autre. Mais parfois, on n'écoute pas, on n'arrive pas à percevoir les appels, parce que justement, on n'habite pas son cœur. On n'habite pas son intériorité. On n'est pas dans une dimension contemplative. Et puis, une autre chose qui est intéressante, c'est ce récit-là, donc dans la dernière semaine de l'Avent, il faut toujours relire et interpréter l'Écriture dans le temps liturgique, parce que on l'a plusieurs fois, ce récit de l'Annonciation, au cours de l'année liturgique. Et donc là, ça a une couleur particulière, puisque c'est la nativité du Seigneur qu'on s'apprête à fêter. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que tout appel est en vue d'une fécondité. Tout appel est en vue de porter du fruit, et un fruit qui demeure. Et cet appel de Marie est aussi en lien avec une autre fécondité, celle d'Élisabeth. C'est-à-dire que Élisabeth a à la fois été un signe, parce qu'on a besoin, pour se mettre en route et répondre aux appels du Seigneur, on a besoin aussi d'être encouragé. Le signe, il est comme un encouragement. Et pour être validé, parce que c'est important que les signes ne soient pas juste les fruits de notre imagination, uniquement on voit des signes là où ça nous arrange pour faire ce que l'on veut, sa propre volonté. Non, le signe a besoin d'être validé par un aîné dans la foi, et évidemment quand c'est un ange qui vous annonce, voilà, et ta parente Élisabeth, celle qu'on appelle la stérile, elle est enceinte et dans son sixième mois, c'est un signe. Et c'est un signe aussi que la fécondité de nos vies est liée à la fécondité des autres. Vous voyez, c'est ces deux femmes enceintes qui sont dans ce récit. Et vous savez peut-être que quand on médite, on fait la théologie sur la Vierge Marie, eh bien on dit que toutes les grâces dont a bénéficié Marie sont orientées à ce qu'on appelle la maternité divine. Elle est la mère du Sauveur. Voilà ce qu'on s'apprête à fêter. Et c'est pourquoi le 1er janvier, voilà, on célèbre la Théotokos, comme on dit, la mère de Dieu. Et que toutes les grâces qu'elle a reçues, c'est en fonction de cette fécondité, ou comme découlant de cette fécondité, comme par exemple l'Assomption. Avec son corps et son âme, elle est auprès de Dieu. Mais parce que justement, elle a accueilli l'appel à cette fécondité inespérée. Donc ça nous fait dire que, au fond, comment vous dire, la fécondité de nos vies est un critère de décision. Est-ce que ça va aussi rendre les autres féconds? Est-ce que ça va leur permettre d'exprimer leur talent? Est-ce que ça va épanouir quelque chose dans notre humanité? Et dans l'humanité de l'autre, parce qu'on le voit bien, et on le voit bien dans, évidemment dans la réponse de Marie, dans notre réponse, d'autres sont embarqués. Dans notre oui, d'autres sont aussi inclus. Et c'est pour ça que l'appel, la réponse à l'appel, et aux appels de façon générale, implique d'autres. Parce que je ne peux pas dire je sans dire tu, et je ne peux pas dire tu sans dire nous. Alors, je trouve que c'est beau ce texte-là, avec cette lumière de Noël là qui est diffuse, qui est lointaine, qui s'approche là, petit à petit. Et ce texte-là, je trouve qu'il nous dit voilà, qu'il y a beaucoup de choses sur la manière de discerner. La manière de discerner. Et puis, évidemment, dans tout discernement, dans tout appel, il y a l'expérience d'une disproportion. Il y a une disproportion. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Bon, bonne question. Donc, voilà, il n'était pas fiancé à Joseph, etc. Bon, et voilà, il n'avait pas eu d'union avec lui. Voilà, mais comment se fait-il? Il y a quelque chose qui est de l'ordre du vertige. Nous sommes la religion du vertige. Il y a quelque chose de vertigineux dans l'appel du Seigneur, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas en rapport avec ce que nous sommes capables de produire humainement. Vous voyez, et je trouve ça intéressant de dire que, et c'est ça le pas de la confiance, et c'est ça, à la fois il y a un discernement, mais à la fois il y a un lâcher prise. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Ben oui, bonne question. L'Esprit Saint viendra sur toi. Et donc, cette disproportion, ce côté vertigineux de tout appel, parce que notre fécondité n'est pas au bout de nos actes, c'est vraiment la grâce qui agit. Ben, je trouve que ça nous donne confiance. Ça nous donne confiance. Si ça dépendait de nous, entre guillemets, si c'était à la force de nos actes, de nos poignets, on pourrait, j'allais dire, s'inquiéter. Mais comme on se lâche prise, on est dans une attitude de confiance, eh bien, il y a quelque chose qui advient, qui est au-delà de ce qu'on a pu imaginer. Alors oui, cet appel du Seigneur, c'est un appel qui nous redonne espérance, confiance. Et c'est un appel aussi qui est toujours lié au salut. C'est toujours lié au salut, c'est intéressant de se dire ça. C'est ce qui empêche justement d'un recroquevillement sur soi-même. Dès qu'on répond à un appel du Seigneur, dès qu'on est attentif aux motions du Saint-Esprit en nous, et attention, il y a un grand ennemi des motions du Saint-Esprit en nous, un grand ennemi, j'allais dire, de la vie contemplative en général, c'est l'activisme. L'activisme, le perfectionnisme sont les grands ennemis de la vie contemplative, d'être attentif aux motions de notre âme, aux mouvements de notre âme. Et donc, c'est des idoles. Ce qui s'oppose le plus au salut de Dieu, c'est des idoles. Et ça, c'est deux idoles qu'il faut démasquer, qu'il faut justement débusquer. Marie, elle était chez elle, elle était dans une attitude contemplative, alors que nous, si on est dans l'extériorité, dans une sorte d'agitation, comment on va pouvoir entendre? Et je trouve ça beau quand le temps que nous vivons, ce temps de fin d'année, etc., où d'une certaine manière... La nature se recueille, vous voyez, il y a une sorte de recueillement de toute la nature, avec l'obscurité, la nuit qui tombe plus tôt, avec, bon, normalement un certain froid, même si on est pour le moment épargné, mais voilà, et puis ensuite cette question de couvre-feu, etc. Mais de cette manière, ça nous invite à faire attention de ne pas tomber dans cet activisme qui fait qu'on est en dehors de soi-même, qui fait qu'on n'écoute pas l'appel, qui fait qu'il y a une fécondité qui n'est pas au rendez-vous. C'est tout clac, 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 clac. C'est les, comme les dominos. Vous voyez ? Donc, tout est orienté, tout appel est lié au salut. Hein. Voici la servante du Seigneur, le grand service, c'est le service du salut. Jésus est serviteur et son service est salut. Et qu'est-ce qui, de quoi veut-il nous sauver ? Il nous sauve des idoles. L'idole, c'est quelque chose ou quelqu'un qui prend la place de Dieu. Et l'idole, il y a quelque chose de mortifère dans l'idole. Quelque chose de mortifère, vous voyez, il y a quelque chose, c'est justement tout l'inverse de la fécondité. C'est tout l'inverse de la fécondité, l'idole. Et c'est en nous. C'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est précisément ça. C'est débusquer en nous ce qui nous empêche d'accéder à la vie intérieure, d'accéder à notre intériorité, d'accéder à la présence du Seigneur. Nous, vous êtes, ne savez-vous pas que vous êtes les temples du Saint-Esprit ? D'accéder à l'eau divine qui habite notre âme. Le chrétien, c'est celui qui porte en lui-même plus que lui-même. C'est ça la définition du chrétien. Il fait cette expérience de par le baptême, là encore, une grâce qui est donnée. De par le baptême, il fait l'expérience d'être porteur de quelqu'un, d'être tabernacle. Et Marie, évidemment, est tabernacle. Marie, elle, on imagine bien pendant tout ce temps de gestation, etc., c'est vraiment cette pensée d'être habité par le salut. D'être habité par le salut. Vous voyez, et je trouve ça donne une. Je trouve ça très beau justement de méditer sur Marie comme celle qui est l'archétype de réponse, la réponse à tout appel. Elle vit déjà dans ce salut, elle vit déjà parce qu'elle est pleine de grâce, parce qu'elle est immaculée conception, parce qu'elle vit déjà dans ce salut. Et vous savez, dans théologie, il y a quelque chose dont on dit le déjà et le pas encore. C'est-à-dire, le déjà et le pas encore, c'est une catégorie théologique, c'est-à-dire, pour faire simple, on est déjà sauvé, mais on n'est pas dans le face-à-face. Hein. On est déjà, Dieu a déjà triomphé du péché et de la mort, mais pas dans cette plénitude, comme on le verra dans l'au-delà et dans le face-à-face, où quand il viendra juger les vivants et les morts. Le déjà et le pas encore. Et je trouve qu'on ne vit pas assez du déjà. On ne vit pas assez du déjà. C'est déjà ce salut, il est là au milieu de nous. Déjà, la fécondité de nos vies, elle n'appelle qu'à se déployer. Vous voyez ? Alors, profitons de cette dernière semaine avant Noël, profitons justement pour accentuer l'intériorité. Profitons peut-être de ce couvre-feu aussi qui nous est donné, qu'on n'a pas choisi. Les circonstances et les nécessités, disait le philosophe Pascal, voilà nos maîtres spirituels. Mais quelque part, est-ce que ce n'est pas cette invitation à nous recueillir davantage, à ne pas nous sortir trop de nous-mêmes, d'activisme et de perfectionnisme, qui sont les ennemis de la vie intérieure, qui sont ces terres sèches, vous savez, dans la parabole du semeur. Marie est une terre féconde, souvent on fait la parallèle, mais dans la parabole du semeur, tu vois, il y a les terres, la terre peu profonde, ou la terre pleine d'épines, celle où la parole est jetée, comme Marie reçoit la parole, mais celle qui ne porte pas de fruits, et ça, ces terres-là, c'est la terre, justement, d'activisme et de perfectionnisme. C'est des terres peu profondes. C'est des terres où ça ne pénètre pas. Alors, on va demander au Seigneur, durant cette dernière semaine, peut-être d'aller plus au désert, alors ça dépend un peu vos réalités familiales, parce que c'est aussi le temps des vacances, peut-être des retrouvailles, Mais en tout cas, qu'on ait un temps dans cette semaine. Qu'on ait un temps pour aller au désert. Désert, c'est le lieu de la tentation, mais c'est le lieu aussi où Dieu se révèle. Je te conduirai au désert et je parlerai à ton cœur, hein, le prophète Osée. Voilà ce que le Seigneur veut faire pendant le temps de l'Avent. Alors c'est cette grâce qu'on va demander les uns pour les autres. Cette grâce de ce choix de la profondeur, ce choix de l'intériorité, ce choix de laisser d'être attentif à l'action du Saint-Esprit dans nos vies, qui veut faire de nous des témoins, et qui veut aussi, par notre intermédiaire, porter un fruit, et un fruit qui demeure.